MDM, on écoute et on se détend,
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM. Salut à toi François Millot.
Bonjour Jeannot.
Bon, 15 on the rocks, l'émission rock'n'roll sur nos ondes, ça c'est fait, on y reviendra peut-être.
Ça repart.
Duende, on peut en parler un peu, mais même bon,
ça continue.
Ça continue aussi. Et puis, si je m'adresse à toi François, c'est que c'est toi qui nous as mis sur la piste de l'invité du jour, Nicolas Gutiérrez, une piste pleine de fumée, de tabac et de pipe.
Ah oui, ouais, mais c'est bien présenté, c'est exaltant tout ça.
Ouais,
il se trouve que par accident, vraiment par hasard, j'ai rencontré Nicolas Gutiérrez, qui est artisan dans les Landes, qui est de Peyrorade et qui habite à Bélus, et qui représente une ultime race d'artisans en voie critique d'extinction. Nicolas Gutiérrez est pipier, et c'est un gars qui fait encore vivre aujourd'hui, avec la fougue de ses 30 ans, la grande tradition des artisans d'art, qui à partir de matières brutes, de bruyères, créent des objets de design qui permettent de voyager légalement, en aspirant quelques bouffées de tabac vendues légalement dans des commerces. Donc un type incroyable qui a de l'or dans les mains, et il en reste quoi, à peine une poignée en France.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci, merci beaucoup de m'inviter.
Tu confirmes tout ça, Nicolas ?
Ouais, on est bien, une bonne présentation. Ouais.
Ah ben, François, c'est presque un métier.
On dirait,
ouais. Alors raconte-moi un petit peu de ton activité. Comment tu t'y es mis d'ailleurs à cette activité de pipier ?
Alors, dans un premier temps, c'était l'envie, le besoin même de travailler le bois. Et par manque de place, manque d'argent pour investir dans un local, dans des machines plus volumineuses, il a fallu trouver une solution. Et j'ai découvert cet univers en commençant par fumer la pipe. Et je m'y suis intéressé de plus près, suivi quelques premiers tutos pour voir un petit peu ce qu'il était envisageable de faire. Et puis j'ai fini par aller à Saint-Claude rencontrer un maître pipier, pour le coup, qui m'a expliqué un petit peu plus en profondeur tout ça et qui m'a permis d'avoir mon premier équipement.
Ah, il existe donc des maîtres pipiers, des gens qui initient dans cette pratique.
Alors il en existe surtout un qui est encore vraiment en activité et qui continue à faire découvrir à des gens qui souhaitent découvrir ce métier. Mais à mon sens, en tout cas, c'est le dernier en activité, ouais. Le dernier maître réellement en activité.
Tu t'es intéressé, Nicolas, à l'histoire un petit peu des pipiers de cette tradition, de cette pratique, hein ?
Bien sûr, ouais, ouais. Bien sûr.
Raconte-moi un petit peu alors d'où ça vient, comment ça a débuté, un petit peu de cette historique-là.
Alors, pour ceux qui seraient antérieurs à 1850, je ne serais pas le plus qualifié. On est surtout sur des pipes d'écume, puis sur des pipes en bois, un petit peu, on prenait un petit peu tout ce qui nous passait sous la main, que ce soit du fruitier, que ce soit, voilà, que ce soit du buis. Et puis vers 1850, 1854 plus précisément, on aurait donc découvert la bruyère, bruyère arborescente, Erica arborea, pour son utilisation dans la fabrication de pipes. Donc il y a deux légendes, soit on l'aurait découverte par hasard dans un lot de buis dont on se servait donc pour tourner les pipes sur Saint-Claude. Et la deuxième légende, en fait, elle veut que ce soit un marchand, un pourvoyeur de buis qui est amené un lot sur Saint-Claude et ayant croisé sur sa route en partant du sud-ouest un berger pyrénéen qui fumait donc un brûlot, espèce de pipe mais taillée dans la masse dans un bloc de bruyère. Donc il aurait croisé ce gars qui fumait ça depuis longtemps et ce bois qui ne brûlait pas.
Mmh.
Et donc il a ramené ça sur Saint-Claude et... Ça leur aurait donné, en tout cas, l'idée de découvrir ce bois.
Pour arriver aux pipes telles qu'on les connaît un petit peu maintenant, dans la forme et dans la
tout
pratique
fait,
tout de
fait.
Tout ça. Ouais. Saint-Claude, géographiquement, c'est où ?
C'est dans le Haut-Jura,
ouais.
Voilà, à 60 km de la frontière suisse. Quoi,
mm-hmm. Et voilà. Explication de ce lieu-là, non, c'est juste le...
Alors, la présence de beaucoup de tourneurs du coup qui ont passé la frontière et qui sont installés dans cette petite vallée. Également beaucoup de travail de pierres précieuses, mm-hmm. Quelques joailliers aussi pareil qui avaient traversé. Voilà. Mais pourquoi essentiellement la pipe Peut-être parce qu'on l'a découvert là-bas, vraiment, l'utilisation de la bruyère. Mais sinon, avant, ça se faisait beaucoup plus partout. Je veux dire, chacun faisait sa pipe, de toute façon, dans un morceau de bois quelconque.
Et comme le disait François dans ce superbe propos introductif, donc c'est une pratique qui est, si on dit déclin, si on dit de moins en moins de monde, ça correspond aussi à une réalité.
Oui, malheureusement, oui. Une réalité de mode de consommation aussi. Hein, on est plus, on prend moins le temps. C'est pas qu'on a moins le temps forcément, c'est qu'on le prend moins. Mmh. Et on est dans un système de consommation pure et dure, quoi. Donc on va préférer la cigarette. Hein. Mmh. On va la fumer une fois, on va la jeter. C'est
terminé. Sans parler des cigarettes électroniques ou des petites choses comme
ouais,
ça. Quoi.
Ouais, ouais, non mais voilà. Mais c'est vrai que. Ouais.
Juste une parenthèse, Jeannot. Il y a 50 ans, on fabriquait 2 millions de pipes à Saint-Claude. Il y a 20 ans, on en fabriquait 700 000. Aujourd'hui, il en sort même pas 70 000, en fait. Mmh. Et sur 20 ans, la consommation de tabac était divisée par 10. Mmh. Donc, voilà, on croise plus quelqu'un qui fume la pipe. J'ai fait la feria de Vic, il y a un mec dans la feria qui fumait la pipe, j'ai arboré la mienne aussi. On est tout de suite venu à discuter ensemble. En plus, on est tellement peu que c'est un moyen de socialisation et tout de suite on sympathise. Et moi, je dis toujours, en plaisantant, un type qui fume la pipe, c'est forcément pas un mauvais gars. C'est un gars qui prend le temps, il y a une sorte de philosophie de la vie. C'est un esthète, parce qu'on fume de beaux objets, il fabrique de véritables chefs-d'œuvre. Notre ami Nicolas. Et voilà, on est méditatif. C'est Einstein qui disait, quand on te pose une question difficile, tu prends le temps de fumer une pipe et après tu commences à envisager la réponse. Mmh, mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc il faut se retrouver. C'est pour ça qu'on se voit, on sympathise. On n'a rien à voir. Rapidement, il est plutôt de type geek. Il a un t-shirt Adam Family, il a une barbe qui lui touche le nombril, il est peut-être même tatoué, j'en sais rien.
Effectivement, oui.
Voilà, donc on n'a rien à voir, mais tout de suite, ça match, quoi.
Ouais,
c'est ça.
Ouais,
C'est la magie des fumeurs de pipe.
Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est vrai que dans ce monde qui va hyper vite, enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais pour mais c'est ça, quoi, l'image du fumeur de pipe, un petit peu philosophe, un petit peu esthète, où le temps suspend un petit peu. C'est
romantique. Ça renvoyait à la littérature. Moi, je faisais des études supérieures et pour se donner un style, on avait tous alors des longues pipes là, un peu romantiques. Là, voilà, ce qu'on appelle des liseuses d'ailleurs, c'est une pipe avec un très long fourneau qui permet de fumer tout en bouquinant. Mm-hmm. Voilà, alors, on se brûle pas, quoi. Ouais. Voilà. C'est tout cet imaginaire qu'on transporte avec cet objet magnifique que fabrique ou que restaure Nicolas.
Alors sans parler de l'odeur en plus de ces tabacs de la pipe tout à fait caractéristique, hein, ça se fume. Mais il y a d'ailleurs évidemment que le bois, ce que tu fabriques Nicolas, contribue à tout ça, toute cette atmosphère. Raconte-moi un petit peu comment tu travailles alors Nicolas.
Alors pour ce qui est de la fabrication, je pars donc de matériaux bruts. Mes morceaux de bruyère arrivent soit d'Italie, soit d'Algérie, un petit peu Grèce également. De toute façon, voilà, c'est une essence qui pousse que sur le pourtour méditerranéen, qui n'est plus du tout travaillée en France. Et donc voilà, donc on fait venir ça de là-bas. Ensuite, j'ai les matériaux pour le tuyau, essentiellement de l'ébonite, donc un caoutchouc vulcanisé en fait, hein, durci. Qui peut être noir ou teinté dans la masse et qui prend à ce moment-là le nom de Cumberland, ou de l'acrylique également. Donc voilà, moi je reçois ça sous forme de barreau de 1 mètre, à moi de tourner ensuite et de travailler ça pour lui donner la forme voulue. Mm-hmm. Voilà, de la même donc pour le bois, quoi.
Et là tu laisses aller de ton imaginaire, tu as des commandes particulières. Alors, comment ça marche?
Ouais, effectivement, il y a des commandes où on m'impose en tout cas au moins une taille de foyer à respecter, une certaine longueur, un certain poids. Voilà, ça me donne une idée de volume. Et après, là-dessus, soit je pars sur... je vais piocher dans mes cahiers à dessin de mes premières années où je fabriquais pas encore, mais je commençais déjà à réfléchir à tout ça. Mmh. Soit je me laisse inspirer par ce que me raconte la personne, par sa façon de fumer, le lieu dans lequel il fume. Voilà.
Donc il y a des rencontres au préalable, quoi, quand tu prépares ça, ou des entretiens téléphoniques ou autres, où tu cadres un petit peu de l'atmosphère, de l'attente de ce fumeur de pipe.
Oui. Il faut. C'est un objet qu'on va garder toute sa vie. Donc voilà, derrière, le but, c'est bien évidemment d'avoir quelque chose qui se rapproche d'un outil de fumage quand même, donc quelque chose de très bien dans son architecture interne, pardon. Mais également un objet dont on se lassera pas, quoi.
Mmh. Voilà. Il faut que ce soit ergonomique.
Ouais.
Et en plus qu'une pipe ait bon goût en plus. Et donc il y a des impératifs techniques, hein, parce qu'il y a des pipes qui brûlent le tabac. Qu'on peut acheter très cher chez des marques industrielles et qu'on fiche à la poubelle ou qu'on garde dans un tiroir parce que ça marche pas. Donc c'est vraiment une alchimie, on n'est jamais sûr du truc, mais déjà il faut avoir un coup de cœur pour l'objet et que cet objet fonctionne bien. Mmh. Voilà. Et on est, je pense, sur un milieu très exigeant de collectionneurs. Je pense que sa clientèle, mais il va nous le dire, est internationale et qu'il y a des objets qui peuvent valoir plusieurs milliers d'euros.
Oui, tout à fait. Tout à fait. On va démarrer dans, pour avoir une pipe neuve d'un artisan, on va démarrer aux alentours de 130, 150 euros. Effectivement, ça peut aller à plusieurs milliers d'euros. Mon record pour l'instant étant une restauration, donc une pipe d'un autre artisan, que j'ai restaurée, remise à neuf, et que j'ai vendue pour 5800 euros.
Waouh!
Voilà. Donc oui, il y a des choses, et c'est un petit prix, on monte bien plus haut que ça, évidemment.
Parce que j'imagine que c'est évidemment, ce sont des heures de travail que tout ça,
au niveau
du temps, de la durée, ça dépend forcément de ce que tu as à faire.
Ouais, si on est donc sur une fabrication, sans compter le travail de recherche, de dessin, de voilà, purement donc le travail manuel, on va être sur entre 25 et 30 heures minimum pour une pipe.
Mm-hmm. Ouais. Clientèle internationale, comme le disait François.
Oui, clientèle internationale, tout petit peu francophone, mais voilà, vraiment majoritairement États-Unis, Allemagne, Chine, Japon, voilà, ouais.
Tu dois rencontrer aussi de personnages ou en couleur, on imagine, avec ça, dans ces échanges. Tu as le temps un petit peu de faire connaissance dans la préparation de tout ça, si tu demandes un petit peu de l'atmosphère dont on parlait tout à l'heure.
Alors oui, il faut prendre le temps de parler avec les gens. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est essentiel dans mon travail. Il faut comprendre, il faut les laisser parler, quoi. Il faut les faire parler pour savoir ce qu'ils veulent vraiment. Mm-hmm. Donc oui, ça passe par une rencontre. Elle peut être virtuelle, bien évidemment, mais il va y avoir quelques échanges avant que je me lance dans le travail, vraiment.
Ouais. Mmh. La rencontre avec toi, François, c'est venu comment ?
Ben, moi, en fait, c'est du pur hasard. J'avais entendu parler, je crois, par un article de presse. Et puis, j'ai quelques objets qui remontent à mes études et qui ont été transmis par la famille, un grand-père, un père. Et je voulais rencontrer ce monsieur. J'ai profité du mois d'août pour lui passer un coup de fil. Et tout de suite, au téléphone, c'est passé.
Mmh.
Voilà. Et il est très modeste parce que il a été formé, et ça lui a, je pense, ouvert beaucoup de portes. Il a été formé par le meilleur artisan encore vivant aujourd'hui, Pierre Morel. Et surtout, il est membre de la confrérie de Saint-Claude.
Des maîtres pipiers de Saint-Claude.
Des maîtres pipiers de Saint-Claude. Donc, c'est quelqu'un qui est promis un avenir professionnel.
Mm-hmm.
Pourvu que y ait de la matière, entre guillemets, commercial derrière.
Mmh. Ouais, je te vois réagir, Nicolas, à travers ses propos sur l'avenir.
Oui, tout à fait. Mais on est toujours un petit peu en sursis vis-à-vis des lois qui se durcissent sur la consommation de tabac, en tout cas en France. C'est vrai que ça devient compliqué, ne serait-ce qu'avec le prix de vente qui a explosé pour les tabacs. Plus, je le disais tout à l'heure en off, plus de 450% d'augmentation depuis les années 90, uniquement dû à la taxation de tabac. Donc c'est énormissime. Voilà, pour information, donc du coup, en 1990, il se vendait 2910 tonnes de tabac à pipe par an en France. En 2018, dernière étude, on était à 239 tonnes. Voilà.
Donc c'est divisé par 10, en gros, sur 20 ans, quoi.
Ouais.
C'est terrible.
Voilà, donc on est toujours un petit peu en suspense, on va dire, quoi.
Ouais. Ah, t'as une idée, Nicolas, du nombre de pipes que tu as, peut-être un petit peu bateau, t'as une idée du nombre de pipes que tu as fabriquées et créées ?
Alors, que j'ai créé beaucoup, mais que j'ai commercialisé réellement assez peu, finalement, pas plus d'une quinzaine par an.
Mm-hmm.
Pas plus d'une quinzaine par an. Il faut que... Enfin, J'ai très peu confiance en moi, donc je suis tout le temps en train de batailler sur des détails. Voilà, il faut vraiment que ça me paraisse presque parfait, quoi, pour que je puisse voilà.
Pour moi, on est quasiment dans le registre de l'artistique, et pas de l'artisanat.
J'étais en train de penser, je me dis, c'est comme un tableau, quoi. Il faut savoir que le peintre le lâche.
Ouais. C'est ça. Et, ouais. Chez Nicolas, ce qui est touchant, c'est qu'il y a ce manque de confiance, en fait, et cette méticulosité qui fait que moi, je suis sûr qu'il sort des objets magnifiques, mais si dans sa tête de fou, hein, de fou sympathique, mais de fou, si c'est pas parfait, voilà, lui considère que ça vaut rien, quoi.
Mm-hmm.
C'est assez dramatique. On n'est pas du tout dans une démarche de production, mais on est dans une démarche vraiment de recherche presque métaphysique, quoi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Une quête, quoi, une sorte de quête qui se poursuit.
C'est un peu ça.
Et tu joues sur la forme, tu joues sur c'est quoi qui va, parce qu'il faut démonter quand même à travers cet objet, il faut se renouveler, créer à chaque fois.
Oui, il faut sortir des formes basiques qu'on va trouver chez toutes les marques, chez des fabricants un peu plus industriels, en tout cas. Donc oui, on est tout le temps, toujours en recherche. Évidemment, depuis 200 ans, bientôt, beaucoup de choses ont déjà été faites, mais il s'agit à chaque fois de se réapproprier une forme, quoi. D'y ajouter sa patte. Il faut que, même sans marquer l'objet, on puisse dire, OK, ça, c'est tel artisan, quoi.
C'est ce qui fait un artiste, en fait. Tu regardes l'objet, deux secondes, tu sais à qui l'attribuer. Tableau, un bon musicien. Le style 2, c'est le style 2, voilà. Et donc, il faut que d'ici 3, 5 ans, quand on va avoir une Gutiérrez, on dit, ah, mais oui, c'est Gutiérrez, quoi. Là, il aura gagné.
Tu les marques, tu les signes, tes objets?
Oui. Alors, uniquement celles que je commercialise, du coup. Les autres, soit elles restent à l'atelier et c'est moi qui les fume, soit ça fait un barbecue un peu cher. voilà.
Ça brûle mal, en plus, la bruyère.
Ben, à partir du moment où ça prend les braises, par contre, il faut avoir des invités, parce qu'on est parti sur la durée,
Et la principale différence avec des pipes industrielles, c'est donc la qualité du bois, le travail réalisé dessus.
La qualité des matériaux, c'est vrai qu'on peut se permettre d'acheter des ce qu'on appelle des petits plateaux en fait de bruyère, donc un morceau de bruyère qui va dans lequel du moins on va pouvoir tirer une pipe qui va pouvoir coûter jusqu'à 45€ hors taxes, qui va demander 2 ans de séchage supplémentaire dans l'atelier histoire de s'acclimater. Ensuite on va pouvoir commencer à dessiner dessus, le percer, le mettre en pause, le reprendre plus tard. Voilà, en fait c'est tous ces temps de séchage. Plus la bruyère va être sèche, plus elle va être légère, on va pouvoir du coup travailler sur des volumes plus importants pour un poids égal. On va se permettre d'acheter les meilleurs matériaux pour les tuyaux en provenance d'Allemagne, qu'on va payer pareil une petite fortune. On a cette liberté en fait de temps. On a cette liberté de temps. Voilà, la pipe c'est une affaire de patience, qu'on soit fumeur ou qu'on soit fabricant. Je pense que voilà, on peut prendre le temps et forcément ça se ressent dans le fumage après, ouais, bien sûr.
Au moment où on se parle, Nicolas, il y a combien de pipes en chantier, si je puis m'exprimer ainsi, qu'elle dans l'expression?
Alors, il y a en restauration, puisque je fais aussi et même principalement de la restauration. En restauration, j'ai une trentaine de pipes qui attendent à l'atelier pour une bonne vingtaine de clients. Et ensuite en fabrication, j'avais suspendu là les commandes pendant tout l'été, donc du coup là j'ai des commandes pour décembre. Je dois avoir une dizaine de pipes à sortir pour décembre.
Ça sert à Noël tout ça peut-être ou pas?
Je pense. Il y a quelques départs à la retraite aussi, il y a quelque chose comme ça, mais ouais.
D'accord. Ouais. Alors ça sans forcément engager les gens à fumer la pipe, tout ça à consommer avec modération, c'est comme ça qu'on dit, je crois. le fait de souligner tout ça manque de renouvellement peut-être à venir, parce qu'on fume plus la pipe trop chez les jeunes, dans les us et coutumes actuels. Donc il y a un peu de cette inquiétude là, quoi.
Un petit peu.
Peut-être pas du tout, parce que ça devient, comme tu disais François, des objets d'art, des objets de collection.
C'est-à-dire au lieu de consommer de manière pathologique et d'être dans la quantité, au lieu de fumer 20 clopes, on se pose, on prend une demi-heure et puis on allume une bouffarde et puis on... Voilà, c'est encore une fois, c'est une autre approche de l'existence, un autre rythme. C'est pourquoi s'envoyer un pack de 12 bières de supermarché quand on peut déguster un bon verre de très bon vin, quoi. Ça coûte pas plus cher.
Une bouffarde.
On peut pétuner avec une bouffarde.
Ah ouais, voilà. Pétuner, c'est fumer la pipe.
Pétuner.
Le pétin,
le tabac. Les dames ont beaucoup fumé la pipe. Sans aucun
jeu de mots.
Dans les années folles, c'était très pratiqué. Ouais. D'ailleurs, il existe chez les fabricants de pipes des modèles pour dames, plus petites, plus élégantes.
Ça t'est arrivé d'ailleurs d'en faire pour des dames?
Oui, bien sûr. Et alors, on n'est pas forcément, maintenant, on sort vraiment des clichés comme ça. En tout cas, notre société veut qu'on pousse un petit peu ces limites-là. Donc, alors, on n'est plus. Comme avant, beaucoup sur des pipes longues, fines, une pipe droite classique avec une belle épaisseur de bois, ça part aussi pour des dames.
Ce fut peut-être même une sorte de symbole de libéralisme.
Oui, la femme affranchie, tout à fait. Donc je dis que nos féministes woke devraient peut-être envisager. Qui sait?
Et donc, de contacter Nicolas Gutiérrez, comment est-ce qu'on te trouve, Nicolas? Réseaux sociaux, tu apparais, dis-nous un petit peu de tout ça. Nicolas.
Oui, alors réseaux sociaux, soit sous mon nom, sur Facebook, sur Instagram, ou les comptes pro, donc NG Pipe, ou sur mon site internet www.ngpipe.com.
www.ngpipe.com, NG majuscule, comme Nicolas Gutiérrez.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter, François, sur tout ça?
Non, mais la messe est dite.
Ouais, la messe s'est dit, ouais, allons fumer.
Ouais, on va s'en faire.
Dans ses pratiques, ouais. Donc, et ça rentre dans ton intimité. Comment tu la fumes, la pipe, François, tous les jours, par semaine?
Non, moi, non, je pas tous les jours, parce ouais. que, voilà, bon, c'est pas forcément toujours très bon pour la santé. Mais le week-end, en général, après un bon café, un bon repas... Ouais. Ouais, une bonne petite bouffarde quand j'ai le temps, tranquillement. Ouais, ouais, 2-3 par semaine, pas plus.
Mm-hmm. Marque le truc comme ça, le petit côté épicurien de tout ça. Nicolas, je t'ai même pas demandé si tu fumes la pipe d'ailleurs.
Bien sûr, ouais.
Je l'ai dit tout à l'heure,
ouais,
peut-être.
Ouais. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Je pense que c'est essentiel. Je sais qu'il y a des artisans qui arrivent à faire du bon travail sans pour autant fumer la pipe, mais oui, c'est essentiel de pouvoir goûter à ce qu'on fait pour savoir ce qu'on fait. Donc oui, je fume et j'entretiens ça.
Mais
oui.
tu ne goûtes pas les pipes que tu fabriques. Que tu
ah non, 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 bien sûr que non. Non,
parce
non.
Que là, une fois que c'est fait, la première, c'est évidemment le client qui doit tirer la première bouffée. Merci beaucoup, Nicolas.
Avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci beaucoup François.
Merci Jeannot.
Ça se passe bien, 15 on the Rocks, tout va bien?
Ben, j'ai réenregistré l'émission d'octobre.
Oui.
Ouais, ouais. Et puis, puisqu'on en parle, je fais un petit focus sur les grandes reprises du rock par les rockers eux-mêmes.
Ouais,
voilà,
ouais.
Et j'espère que ça va plaire.
Il y avait des rockers qui fumaient de pipe d'ailleurs, comme ça, toi qui es une
ouais, je pense que
encyclopédie vivante.
Beaucoup ont essayé beaucoup de choses.
Ouais, ah oui, c'est
après,
vrai que,
je
ouais,
sais pas
ouais,
ce qu'il y avait ouais. à l'intérieur, mais je pense que le voilà. Chilom peut-être. Hein,
okay. 15 on the Rocks à écouter avec la pipe, évidemment, bien sûr. Merci beaucoup Nicolas et à très vite. Hein.
Merci, avec grand plaisir.
Ouais. N'hésite pas, comme ça, où on te sollicitera pour et grand plaisir que d'avoir présenté ce métier de pipier. Donc tu repars chez toi, où ça donc exactement tu es
à Bellu. À côté de Peyrorade. Ouais.
Voilà, une zone que l'on salue sur le www.radio-mdm.fr. Retour à la musique, Léo Ferré, avec La Pipe pour le titre à venir. Nicolas, la technique qui va nous balancer tout ça.
MDM.
MDM.
MDM, votre radio locale.
Je suis la pipe d'un auteur. On voit à contempler ma mine. D'Abyssinienne ou de Caffrine, que mon maître est un grand fumeur. Quand il est comblé de douleur, je fume comme la chaumine où se prépare la cuisine pour le retour du laboureur. J'enlace et je berce son âme dans le réseau mobile et bleu qui monte de ma bouche en feu et je roule un puissant dictame qui charme son cœur et guérit de ses fatigues sombres.